rien. Ah, tu deviens paresseux. Hein? J'en ai trois, mais c'est pas fameux. Il y a de ces questions qui nécessiterait dans la réponse quelques remarques assez désagréables que je ne tiens pas du tout à vous faire. Alors, il y en a d'autres qui sont plus il y en a deux ici auxquels je pourrais peut-être répondre. Il y en a une qui est sur une phrase de la synthèse des yogas. Une phrase lorsque nous avons déjà lu où il est question de l'être psychique qui insiste sur une beauté rétablie dans sa prêtrise d'inspiratrice, de sa prêtrise d'interprétation de l'éternel. On m'a demandé ce que ça voulait dire. À dire vrai, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si c'est la vieille idée ascétique que la beauté n'a pas de place dans le yoga, ou bien si ce sont les mots sa prêtrise d'interprétation de l'éternel. Pour lesquels on demande une explication. Dans le premier cas, je crois vous avoir déjà assez dit et répété que dans le monde physique, c'est de toute chose la beauté qui exprime le mieux le divin. Le monde physique est le monde de la forme et la perfection de la forme, c'est la beauté. Alors, je crois qu'il n'est pas nécessaire que je revienne là-dessus. Et une fois que nous admettons ça, que dans le monde physique, la beauté est l'expression la meilleure et la plus proche du divin. Il est naturel d'en parler comme d'une prêtresse qui interprète, exprime, manifeste l'éternel. Son rôle est justement de mettre toute la nature manifestée en contact avec l'éternel par la perfection de la forme, l'harmonie et un sens d'idéal qui vous élève vers quelque chose de supérieur. Alors je crois que ceci légitime le mot de prêtrise et explique, répond à la question. L'autre c'est à propos d'une phrase que j'ai dite, je crois, la semaine dernière, où j'ai parlé du seuil de l'occultisme. Alors, on me pose une question sur ce monde occulte, c'est-à-dire invisible aux yeux physique ordinaire. Et on me demande des explications ou des commentaires sur les êtres qui vivent dans ces mondes invisibles pour les yeux ordinaires. On me dit même que je parle très souvent d'entités négatives, c'est-à-dire de formations hostiles, de petits êtres qui sont le produit de la désintégration des êtres humains à leur mort, la désintégration de l'être vital ou de l'être mental humain à la mort. Mais que je n'ai jamais parlé de grands êtres, des êtres magnifiques ou des entités positives qui aident à l'évolution. Je crois que je vous en ai parlé assez souvent. Et enfin, on me demande encore des explications. Bien, le monde occulte n'est pas une seule région où tout est mélangé et qui simplement devient occulte parce que nous ne pouvons pas la voir. Le monde occulte est une gradation de régions qui sont, on pourrait peut-être dire, de plus en plus éthérées ou subtiles, en tout cas de plus en plus éloignées dans leur nature de la matérialité physique telle que nous la voyons d'une façon ordinaire. Et chacun de ces domaines est un monde en lui-même qui a ses formes et qui est habité par les êtres qui ont une densité, on pourrait dire, analogue à celle du domaine dans lequel ils vivent. De même que nous sommes dans le monde physique de la même matérialité que le monde physique, dans le monde vital, dans le monde mental, dans le monde du surmental et dans le monde supramental et dans beaucoup d'autres, infiniment d'autres. Il y a des êtres qui ont une forme d'une substance analogue à celle de ce monde. C'est-à-dire que si vous êtes capable d'entrer consciemment dans ce monde, avec la partie de votre être qui correspond à ce domaine, vous pouvez vous y mouvoir d'une façon tout à fait objective, comme dans le monde matériel. Et alors, il y a là autant et beaucoup plus de choses à voir et à observer que dans notre pauvre petit monde matériel qui appartient seulement à une zone de cette gradation infinie. Vous rencontrez de tout dans ces domaines. Et il vous faut une étude aussi approfondie, et encore plus approfondie peut-être, que dans le monde physique, pour pouvoir connaître ce qui s'y passe, avoir des relations avec les êtres qui y vivent. Il est évident qu'à mesure qu'on s'éloigne, pour ainsi dire, du monde matériel, les formes et les consciences de ces êtres sont d'une pureté, d'une beauté, d'une perfection très supérieure à nos formes physiques ordinaires. Ce n'est que dans le monde vital, le plus proche, celui qui est pour ainsi dire mélangé à notre vie matérielle, quoi qu'il le dépasse, et qu'il y ait une zone où il n'y ait qu'un monde vital, il n'y a plus de monde matériel. Celui-là, on peut dire que, sous certains de ses aspects, il est d'une certaine façon encore plus laid qu'ici. Parce que il est rempli d'une mauvaise volonté qui n'est pas contrebalancée par la présence de l'être psychique qui, dans le monde physique, amende, corrige, répare, guérit cette mauvaise volonté. Mais ceci, c'est une zone assez limitée. Et dès qu'on la dépasse, vous pouvez trouver, rencontrer des choses qui ne sont pas favorables à la vie humaine, des êtres qui ne sont pas à l'échelle de l'existence humaine, mais qui ont leur beauté, leur grandeur à eux. Et avec lesquels on peut établir des relations qui peuvent devenir tout à fait plaisantes et même utiles. Seulement, comme je vous l'ai déjà dit, il n'est pas très prudent de s'aventurer dans ces domaines sans une initiation préalable et surtout une purification de la nature qui fait que vous n'y entrerez pas alourdi et déformé par vos désirs, vos passions, vos égoïsmes, vos peurs, vos faiblesses. Il faut, avant d'entreprendre ces activités, toute une préparation de purification de soi, d'élargissement de la conscience, qui est tout à fait indispensable. Il y a aussi dans ces mondes invisibles des régions qui sont, pour ainsi dire, le résultat des formations mentales humaines. On peut y trouver tout ce que l'on veut. En fait, on y trouve très souvent justement ce que l'on s'attend à y trouver. Il y a des enfers, il y a des paradis, il y a des purgatoires, il y a de tout, suivant les différentes religions et leur conception. Ces choses n'ont qu'une existence très relative, mais qui est d'une relativité analogue à celle des choses matérialisées. C'est-à-dire que pour celui qui s'y trouve, elles sont tout à fait réelles et que leurs effets sont tout à fait tangibles. Il faut une libération intérieure, un élargissement de la conscience et un rapport avec une vérité plus profonde et plus haute pour pouvoir échapper à l'illusion de leur réalité. Mais c'est à peu près quelque chose d'analogue à ce qui se passe ici. Et aussi bien que les êtres humains ici sont persuadés que, pour la plupart, que la seule réalité, c'est la réalité physique. La réalité de ce que l'on peut toucher, de ce que l'on peut voir. Et pour eux, tout ce qui ne se voit pas, se touche pas, se sent pas, est après tout problématique. Eh bien, c'est un phénomène tout à fait analogue qui se passe là. Les gens qui, au moment de mourir pour une raison ou une autre, sont persuadés qu'ils vont aller dans un paradis ou bien dans un enfer, ils s'y trouvent après leur mort. Et pour eux, c'est vraiment un paradis ou c'est vraiment un enfer. Et on a toutes les peines du monde à les faire sortir de là pour aller dans un endroit qui est plus vrai, plus réel. Alors, il est difficile de parler de tous ces mondes, de ces innombrables mondes, en quelques minutes. C'est une connaissance qui demande une expérience vécue de nombreuses années, tout à fait systématique. Et qui exige, comme j'ai dit, une préparation intérieure qui est tout à fait indispensable pour la rendre inoffensive. Nous avons tous l'occasion d'avoir petit contact très partiel, très superficiel de ces mondes dans nos rêves. Et rien que l'étude des rêves est déjà une chose qui exige beaucoup de temps et beaucoup de soins et qui en elle-même peut constituer une préparation pour une étude plus approfondie des mondes invisibles. Je crois que c'est tout ce que nous pouvons en dire utilement ce soir. La dernière question, elle est de quelqu'un qui trouve que j'ai fait des promesses un peu à la légère et qu'après tout, je n'ai pas tenu mes promesses. Peut-être que j'espérais plus de l'humanité qu'elle n'a été capable de me donner, ça je n'en sais rien. Peut-être que c'est une impression purement superficielle J'avais dit à peu près ceci. J'ai dit j'ai dit à peu près ceci, que les gens qui sont ici à l'ashram connaîtront la descente du supramental. Ça, on peut pas me reprocher de ne pas les avoir prévenus quand c'est arrivé. Je n'en ai pas fait un mystère. Et que ils y participeront. Je n'ai vraiment interdit à personne d'y participer. Au contraire, je crois que j'ai encouragé tout le monde à s'ouvrir et à recevoir et à tâcher d'en profiter. Et alors, il est dit, je peux pas vous lire parce que c'est traduit tellement mal que ça n'est plus du français, c'est n'importe quoi. J'avais écrit ça en anglais. Et enfin, à partir de ce moment, la grâce transformatrice rayonnera de la façon la plus efficace. Ben, je défie qui que ce soit de me dire le contraire. Mais voilà où ça commence à être un peu plus. Et je dis, et heureusement pour les aspirants, ce heureux avenir, je ne dois pas avoir écrit ça comme ça, mais ça ne fait rien, cet heureux avenir se matérialisera pour eux en dépit de tous les obstacles que lui opposera la nature humaine non régénérée. Je continue à espérer qu'il en sera ainsi. Mais alors, cette personne qui peut-être est peu patiente, elle me répond ceci. Pourquoi les difficultés ont-elles augmenté, oh, c'est plein de fautes d'orthographe, pour un assez grand nombre de sadhaks? Qui vous dit que ce n'est pas que vous êtes devenu plus conscient, que toutes vos difficultés étaient là avant et que vous ne le saviez pas? Si vous voyez plus clair et que vous voyez des choses qui ne sont pas très jolies, ce n'est pas la faute du supramental, c'est votre faute. Il vous donne une lumière, un miroir dans lequel vous pouvez vous voir, mieux que vous ne vous voyez avant, et vous êtes un petit peu ennuyé parce que c'est pas toujours très joli. Mais qu'est-ce que je peux y faire? Voilà. Alors, la conclusion est celle-ci. Est-ce que la force supramentale ne perd pas ici, en dépit de tous les obstacles que lui oppose la nature humaine régénérée? Vraiment, j'espère que oui, parce qu'autrement, il n'y aurait rien à faire. Le monde ne serait jamais régénéré. Mais je vous ai expliqué pourquoi ça vous paraît plus difficile. C'est parce que vous êtes un petit peu plus conscient et que vous voyez des choses que vous ne voyez pas. Il y a encore une autre raison, c'est que quand la force qui travaille est plus forte, insiste davantage, naturellement, ceux qui résistent, résistent d'autant plus. Et si au lieu, c'est là que j'ai à dire quelque chose qui n'est pas agréable, si au lieu d'être hypnotisé par vos petites difficultés, par vos petits inconvénients, par vos petits malaises, par vos gros défauts, si au lieu d'être hypnotisé par ça, vous tâchiez de voir la contrepartie, à quel point la force est plus puissante, la grâce est plus active, l'aide est plus tangible. En un mot, si vous étiez un petit peu moins égoïste et concentré sur vous-même, et que vous ayez une vision un petit peu plus large, dans laquelle vous puissiez inclure des choses qui ne vous concernent pas personnellement, peut-être que votre vision du problème changerait. Eh bien, c'est ce que je vous conseille de faire. Et puis, on en reparlera plus tard, quand vous aurez essayé de m'en remettre. Ne pensez pas tant à vous-même. Après tout, c'est peut-être le problème qui vous intéresse le plus, mais ce n'est certainement pas le plus intéressant. Voilà. Personne n'a quelque chose à dire? Non? Alors, voilà.